À voix nue. Cette semaine, Jules Crétois rencontre Catherine Kokeri-Vidrovitch. Ce soir, bâtir une œuvre antiraciste.
Catherine Kokeri-Vidrovitch, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne de l'Afrique. C'est le dernier épisode d'une longue série d'entretiens. Nous avons parlé de beaucoup de choses pour comprendre votre intérêt pour ce continent, de votre enfance à vos engagements intellectuels. On arrive maintenant à l'aspect le plus connu de votre vie, celui d'historienne de référence. Je mets des guillemets, je ne sais pas si l'expression est très jolie et si elle vous plaît. Mais c'est sans doute bien pour ça qu'on vous connaît, vos ouvrages de synthèse, sérieux et abordables. Et si j'entre dans une librairie, là, et que je demande un livre d'introduction à l'histoire de l'Afrique, il y a de fortes chances qu'on me dirige vers une de vos publications. C'est de cette reconnaissance que j'aimerais parler. Et Catherine Kokeri-Vidrovitch, forcément, il y a une histoire qu'il s'agit sans doute de raconter. C'est celle où vous déterrez un rapport qu'on avait volontairement caché pendant des décennies, le rapport Brazza.
Oui, alors vous commencez un peu par la fin, si je puis dire, mais revenez au début, puisque c'est par Brazza que j'ai commencé à travailler l'histoire de l'Afrique. On en a déjà parlé, je crois. Mon tout premier travail, ça a été de reconstituer la mission de Brazza qui a créé le Congo entre 1883 et 1885. Je crois que j'ai soutenu cette thèse-là en 1966. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant 10 ans sur l'histoire des compagnies concessionnaires privées qui se sont vues donner d'énormes concessions en Afrique équatoriale pour exploiter le caoutchouc et l'ivoire, l'État français à l'époque ne voulant pas investir dans ce qu'il considérait quelque chose de beaucoup trop cher et d'une rentabilité douteuse, disons. Donc ça a été une colonisation très dure et j'ai travaillé là-dessus et j'ai travaillé en particulier sur... J'ai rencontré évidemment Brazza au début de cette affaire puisque Brazza a quitté le Congo en 1897. Et Brazza était retourné en Afrique équatoriale en 1905 à la suite de très grands scandales de ces compagnies concessionnaires dont nous avons déjà parlé avec, entre autres, Gaston Guimet, etc. Il est revenu, enfin il est parti pendant 6 mois avec une douzaine de compagnons en 1905 à la suite d'un scandale épouvantable. Effectivement, il y avait deux jeunes fontionnaires dans la forêt de Centrafrique, Lubongi Chari à l'époque, qui était alcoolisé et un peu fou et qui avait voulu fêter le 14 juillet 1903 en mettant un bâton de dynamique dans l'anus d'un jeune Africain condamné à mort. Alors évidemment, ça avait été étouffé sur place. Ça arrive en France en 1905. Ça éclate, ça fait un scandale. En 1905, il y avait ce qu'on a appelé les scandales du Congo, du caoutchouc rouge du roi Léopold, sur l'autre rive du Congo, le Congo qui deviendra le Congo belge. Et par conséquent, le gouvernement français, le ministère des colonies est très inquiet que quelque chose éclate du côté français et s'efforce... malgré tout, compte tenu des protestations, accorde la mission Brazza d'inspection. La mission Brazza d'inspection envoie télégramme sur télégramme pour dire il se passe des choses très épouvantables, dont ce scandale Go est toqué, plus une soixantaine de femmes enfermées pour obliger les hommes à récolter le caoutchouc que l'on retrouve au bout d'un mois enfermé dans une case, les 4/5 sont mortes de faim. Donc tout ça commence à se connaître et la Chambre des députés, l'Assemblée, réclame une mission. Le gouvernement pense que Brazza, qu'on avait retiré des affaires parce qu'on le trouvait un petit peu trop généreux vis-à-vis de l'Afrique, reçoit la direction de la mission. Il passe 6 mois, il envoie des rapports assez terribles. Malheureusement pour lui et pour la suite, il meurt au retour à Dakar en 1905. Et ses papiers et tous les rapports de ses compagnons sont remis au ministère qui rédige un rapport. Un rapport très sévère qui devait être par engagement ministériel et de la Chambre publié, mais qui est si sévère que finalement on traîne, et en 1906-1907, on enterre le rapport.
Dans un tiroir.
Dans un tiroir, probablement. Enfin, on ne sait pas. Personne ne sait ce qu'est devenu. Jusqu'en 1910, vous avez la presse de gauche, de temps en temps, réclame la publication du rapport. Puis après, il se passe d'autres choses. Il y a la guerre, etc. On a complètement oublié. Ce rapport avait disparu. Avait-il été détruit? Était-il caché? Personne ne s'en occupait plus. On l'avait oublié. Et dans la multitude d'archives que je consulte sur une trentaine ou une quarantaine d'années, je tombe sur le rapport, qui pour moi était une source très importante pour mon travail, parce que ça décrivait un moment. Je m'en sers, bien entendu. Je me dis, c'est quand même quelque chose de très important. Je le fais photocopier et je le mets dans mes affaires. Et puis je me dis, un jour, j'en ferai quelque chose de particulier. Et puis je l'oublie. Et puis je déménage en 2005. Je retombe sur ce rapport que j'avais oublié. Je me dis, ah ben oui, c'est vrai. Et c'est là qu'un jeune éditeur est venu me voir. Il avait entendu parler de ce rapport. Ça commençait à sortir. Il m'a dit, il paraît que vous connaissez ce rapport. J'en avais parlé dans ma thèse d'État. J'avais donné la référence du dossier. Ma thèse était imprimée, donc les gens pouvaient s'y intéresser s'ils voulaient. Je lui ai dit, vous êtes formidable. Ça fait des dizaines d'années que je me dis, il faut que j'en fasse quelque chose et que je ne fais pas l'effort. Vous êtes là, profitons-en.
Ce petit livre, Catherine Kokri-Vidrovitch, autour du rapport Braza, il fait partie d'une œuvre importante. Vous avez beaucoup écrit à partir des années 80. Alors, dans les années 80, il y a notamment une première histoire de la France coloniale. Il y a beaucoup de livres de synthèse assez accessibles. Vous avez participé à la rédaction de la fameuse Histoire générale de l'Afrique publiée par l'UNESCO. Vous avez écrit une histoire des femmes d'Afrique. Vous avez écrit une petite histoire de l'Afrique au sud du Sahara, de la préhistoire à nos jours. Ça, d'ailleurs, ce livre, il a connu un peu une deuxième vie sous la forme d'une exposition au musée du Quai Branly, L'Afrique des routes dans l'histoire. Ça, c'était en 2017. Rendre accessible l'histoire de l'Afrique, vulgariser, c'était une mission que vous vous êtes donnée?
Oui, mais écoutez, après avoir beaucoup travaillé sur l'Afrique équatoriale, et la thèse d'État, c'était vraiment un gros morceau, j'en avais assez, disons, j'avais envie de changer. Et d'une certaine façon, comme j'ai dit, j'aime bien découvrir des choses, donc j'aime bien changer de sujet de temps en temps. Quand j'ai un petit peu, non pas épuisé un sujet, mais bien exploré, et donc j'ai successivement eu, surtout en tant que responsable de laboratoire, l'idée de lancer des recherches sur des thèmes qui n'étaient pas encore abordés. Alors successivement, je me suis intéressée à l'histoire urbaine africaine. Et là, j'ai écrit effectivement un livre sur l'histoire des villes en Afrique, des origines à la veille de la colonisation. Parce que quand on pense ville africaine, on pense les capitales d'aujourd'hui, on pense les grandes villes, Dakar, Abidjan, Nairobi, etc. Mais les sociétés africaines, un certain nombre de sociétés africaines ont été urbanisées, évidemment. Il y avait beaucoup de formations politiques, il y avait toujours des capitales. Et la capitale, c'était une ville. Donc l'histoire des villes africaines, c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupée. Et j'ai pu beaucoup rassembler de documentation grâce à mes séjours effectivement aux États-Unis, où la richesse documentaire est infiniment plus grande qu'en langue française, simplement parce qu'il y a beaucoup plus d'anglophones que de francophones qui travaillent sur la question, et beaucoup plus de livres. Et j'ai formé pas mal d'étudiants qui sont devenus spécialistes à leur tour de l'urbanisation africaine. Il y a toute une génération de jeunes et de moins jeunes chercheurs excellents sur la question qui ont commencé avec une thèse sous ma direction. Ils sont maintenant bien meilleurs que moi sur la question. Et puis, j'ai eu une autre idée qui était l'histoire des femmes africaines. Alors, j'avais comme collègue à l'Université Paris 7 une femme remarquable et très connue, Michel Perrault, spécialiste des femmes en Occident. Je me suis dit, oui, il y a les femmes en Occident, mais il y a les femmes ailleurs et les femmes africaines. Donc je me suis mise à me documenter, là encore, de façon internationale et beaucoup grâce à des séjours aux États-Unis, sur tout ce qui avait été écrit sur l'histoire des femmes africaines. Et j'ai fait donc un ouvrage de synthèse qui était le premier de langue française. Alors maintenant, il y a effectivement d'anciennes étudiantes en général, c'est des filles qui travaillent sur les femmes, pas toujours, mais enfin le plus souvent, qui sont devenues de très grandes spécialistes d'histoire des femmes africaines et qui sont en exercice maintenant, mais qui ont fait leur thèse avec moi à l'origine. Et puis, je me suis intéressée sur les jeunes aussi. Je me suis dit, les jeunes, on n'en parle pas. On parle que des vieux, on parle les jeunes en Afrique ou bien le... j'ai essayé de lancer un certain nombre de thèmes, et puis chaque fois ça donnait un ouvrage effectivement de synthèse, comme je disais tout à l'heure, qui sert encore pour l'enseignement beaucoup plus.
C'est ça, Catherine Kokri-Vidrovitch, vous avez presque, on a l'impression à lire votre bibliographie, vous avez presque un sens éditorial, et il y a quelque chose qui est assez important aussi, c'est en 2013 vous publiez Être esclave. Le parti pris était de se reposer sur des biographies d'esclaves. En 2018, vous publiez Les routes de l'esclavage, un documentaire du même nom de Fanny Glissant sort en même temps. Là, c'est une démarche commune. Alors là, vous appuyez une thèse dans ces ouvrages, c'est que le racisme anti-noir, qui est un sujet qui traverse votre travail, le racisme anti-noir débute avec la traite atlantique, ça c'est votre thèse. Vous qui êtes une femme qui observe à presque 90 ans une curiosité renouvelée dans la jeunesse française pour des sujets qui ont habité votre vie, le poids du colonialisme, la formation historique du racisme, qu'est-ce que ça vous inspire, ces débats contemporains ?
Ils sont extrêmement importants. Je vous ai dit, j'ai toujours été très sensible aux questions de racisme. C'est une des lignes de ma vie. Donc, quand le thème de l'esclavage, qui était un thème tabou aussi, commençait à sortir, à la suite d'ailleurs en France de la loi Taubira sur 2001, l'esclavage comme crime contre l'humanité, on s'est aperçu qu'il fallait l'enseigner dans les établissements scolaires, qu'on n'avait jamais travaillé, par conséquent il y avait très peu de choses, et donc ça a lancé la recherche. Et donc ça m'a beaucoup intéressée, évidemment, donc je me suis plongée avec les autres dans la recherche sur l'histoire de l'esclavage africain, sur les origines du racisme anti-noir en France, qui sont à relier avec justement l'institution de l'esclavage noir, et du noir comme esclave à partir du XVIIe siècle, et de là donc à tous les débats contemporains sur effectivement le racisme qui apparaît d'une façon plus visible, que c'était mal d'être raciste après la Deuxième Guerre mondiale, et maintenant ça devient quasiment normal d'exprimer des idées racistes. Tout ça, ça m'interpelle beaucoup. Donc ça fait partie, si vous voulez, de cette curiosité que j'ai, qui est de me lancer dans des sujets qui sont pas, que j'ai pas inventés. En l'occurrence, c'est pas moi qui ai inventé l'esclavage, mais c'est vrai que j'ai, au retour des États-Unis où je faisais cours, je me suis dit, pourquoi est-ce que je traduirais pas dans un petit livre tout ce que je pense important dans l'histoire africaine des origines à nos jours. Vous faisiez allusion donc à sa petite histoire de l'Afrique. Mmh. Et c'est vrai que ça sert maintenant de manuel de base pour qu'est-ce qui paraît essentiel pour connaître et comprendre l'histoire africaine depuis la préhistoire. Et c'est ce genre de choses qui m'intéresse davantage, probablement depuis ma retraite aussi. Ma retraite, elle dure depuis un certain temps maintenant, donc ça m'a laissé le temps de réfléchir sur les comparaisons, sur l'ensemble, comment confronter ce qui se passe sur le continent africain qui lui-même est très vaste et très divers, donc on ne peut pas en faire une unité, mais enfin quand même, vous avez une certaine unité qui relève de l'ensemble de la colonisation qui a sévi sur tout le continent pendant pratiquement un siècle, sur la traite des esclaves qui a sévi sur tout le continent pendant deux ou trois siècles. Tout ça, ça donne une certaine homogénéité dans la diversité. Donc comment est-ce qu'on peut comparer tout ça ? J'ai toujours eu l'idée, c'était l'idée du laboratoire que j'avais contribué à créer à Paris 7, de comparer, toujours comparer. On peut comprendre ce qui fait partie de l'évolution particulière de telle ou telle partie du monde avec des grands courants de pensée qui, eux, traversent l'ensemble du monde plus ou moins en même temps. C'est ça qui m'intéresse.
D'ailleurs, on parlait, j'ai évoqué rapidement cette exposition au musée du Quai Branly, oui. L'Afrique des routes dans l'histoire, je crois, donc à laquelle, dans laquelle vous avez un rôle. Je crois que Un des fils directeurs de cette exposition, c'était de dire que le continent africain a une histoire connectée au reste du monde, c'est pas une entité à part.
Oui, c'est un continent, contrairement à ce qu'on pense, qui a été très ouvert. Ça ne veut pas dire que les Africains sont partis. Il y a beaucoup sont partis dans le monde entier à cause de la traite des esclaves. Ça, on l'oublie, en fait. Et puis, il y en a pas mal qui sont revenus. Donc, il y a toujours eu des contacts. Et même avant l'esclavage, il y a toujours eu des contacts. Et c'était l'idée de cette exposition, de montrer par les objets, par les beaux objets africains, à travers le monde, à quel point la circulation des objets, la circulation des hommes, la circulation des idées a existé entre l'Afrique et le reste du monde pratiquement depuis les origines. C'était ça l'idée de l'Afrique des routes. C'est vraiment ça qu'on voulait montrer, à travers des objets de toutes les époques, à quel point l'Afrique était partie du monde est ouverte au monde et a joué un rôle important dans l'histoire du monde. Ça aussi, c'est ce que j'essaye de montrer dans la petite histoire de l'Afrique. La mondialisation, enfin, l'histoire de la mondialisation, elle fait partie aussi de l'histoire de l'Afrique.
Alors Catherine Kokri-Vidrovitch, du coup, surtout ces débats autour du racisme, je vais vous citer... Vous êtes préoccupé certes, par cette question du racisme, mais vous avez eu l'occasion de nous le dire précédemment. Votre engagement est intellectuel et donc vous le dites à propos de votre thèse, mais je crois qu'on peut l'appliquer un peu à tout votre travail. Votre but, c'est tout dire de façon rigoureuse, d'écrire de façon documentée, tranquille mais implacable, sans pathos ni affectivité, les horreurs de la colonisation en Afrique. Il s'agissait vraiment d'une démarche scientifique.
Ah oui, complètement. Je suis tout à fait hostile à tout ce qui concerne comment est-ce qu'on appelle ça la culpabilité ou le quel était le mot de Sarkozy, mais il m'échappe. La repentance. C'est absurde, la repentance. On n'a pas à se repentir de ce qu'ont fait les ancêtres. Les ancêtres ont fait des tas de choses, y compris des choses très mal ou des choses très bien. C'était leur problème, mais c'était pas le nôtre. Et c'est pas une question morale, c'est une question de savoir. Je vous pose le savoir et le jugement moral. En tant que individu de 2022, évidemment, j'ai mon opinion sur l'esclavage, j'ai mon opinion sur les méfaits de la colonisation, mais en tant que historienne, je me dois de reconstituer le plus précisément possible, d'une part les faits et d'autre part les raisons et les mécanismes de ces faits, d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi de répondre non pas seulement à la question comment, mais pourquoi, en essayant de le faire de façon la plus rigoureuse possible, c'est-à-dire sans invention personnelle ou sans pathos. C'est pas facile, c'est pas absolument évident, parce qu'on est toujours un peu subjectif dans sa volonté d'objectivité, mais c'est essentiel de tout dire et de ne pas dire « ah ben non, faut pas le dire parce que ça, c'est pas bien » ou « on va penser que ça va avoir des connaissances, etc. » Non, c'est le savoir qui sauve. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas tout dire, à condition de le dire de façon, justement, raisonnable, rigoureuse et sans pathos.
Catherine Kokri-Vidrovitch, il y a une question là qui me vient. Donc, vous avez enseigné à New York. À l'heure des débats sur le racisme, on compare souvent les États-Unis, la France, on se demande d'où viennent ces débats, est-ce qu'ils nous viennent des États-Unis? Vous, Catherine Kokri-Vidrovitch, vous voyez comment ces différences d'approche entre ces deux pays?
Il y a toujours eu des échanges internationaux avec souvent des coupures, des fossés, des gaps entre les pouvoirs. Dans les années 70, c'était manifestement les penseurs français qui influençaient les penseurs américains. C'était dans ce sens-là. Aujourd'hui, c'est le contraire, depuis un certain temps. C'est-à-dire que vous avez toute une série de théories. Les Américains aiment beaucoup les théories. J'avais un collègue anthropologue que j'aimais beaucoup, américain, qui disait « mais ce ne sont pas des théories, ce sont des modes de pensée. On pense d'une certaine façon, alors ce qu'on pense, on appelle ça une théorie. » C'est un petit peu les Américains. Donc ils nous apportent des concepts postcoloniales, décoloniales, subalternes, sudés, tout ça, c'est venu soit d'Inde, enfin c'est devenu des pays anglophones, soit des États-Unis. C'est toujours très intéressant, à condition de garder aussi son analyse personnel. On ne va pas adhérer à une théorie. Je vous ai dit, je ne pense pas que les historiens soient des théoriciens. Ils aiment bien les théories des autres, ça les intéresse, mais ce qui les intéresse, c'est ce qui leur sert pour faire leurs analyses. Donc tout ça, c'est très intéressant. Et ce n'est pas tout noir ou tout blanc, sans faire de mauvais jeu de mots. Par exemple, décolonial, les idées décoloniales qui ont donné lieu à des délires, des deux côtés d'ailleurs, et des exagérations, ben c'est très intéressant. C'est de dire que pour faire une analyse sociale, il y a toute une série de facteurs qui sont importants. Il y a effectivement les facteurs sociaux, c'est-à-dire les classes, comme disaient les marxistes, on est riche ou on est pauvre, c'est très important. La couleur, ça compte. Hein. Le genre, c'est-à-dire être un homme ou une femme, ça compte. C'est ce qu'on appelle mettre en rapport ces différents éléments, ça n'a absolument rien de scandaleux. Ça n'a rien de scandaleux. Alors pourquoi on s'indigne de quelque chose qui est une évidence ? C'est vrai que si on est une jeune femme noire, pas éduquée et de banlieue, on aura plus de mal pour trouver un studio confortable à Paris qu'un jeune homme blanc qui a un bon venu. C'est évident. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que il faut pas la dire, il y a des questions de bon sens qui se transforment en luttes théoriques qui à mon avis sont absurdes. Parce que tout ça, ce sont des idées intéressantes à condition de garder son sang-froid et son souci de l'analyse. C'est ça qui m'étonne dans la pensée actuelle, en particulier en France, qui est tellement figée dans des oppositions qui interdit aux interlocuteurs supposés être intelligents et raisonnants de s'entendre et de pouvoir discuter. Ce qui est le contraire de la réflexion scientifique.
Catherine Kokrivitrovitch, dans tout ce travail de ces ouvrages de synthèse, ce travail, je ne sais pas si la vulgarisation est le bon terme, mais de faciliter l'accès à une histoire réelle de l'Afrique, souvent vous reprenez les choses à leur début. Alors par exemple, ça peut paraître bête, mais vous ne parlez pas d'Afrique noire, mais d'Afrique au sud du Sahara ou d'Afrique subsaharienne. C'est cette petite chose aussi qu'en France, on méconnaît, ça tient du vocabulaire.
On commence à comprendre. En fait, oui, ça, ça nous est arrivé, effectivement, par le monde anglo-saxon. Et c'est tout à fait vrai. On a un vocabulaire qui est un vocabulaire imprégné de nos héritages, et en particulier de nos héritages coloniaux. Or, la notion Afrique noire et Maghreb, qui est une notion très française, le Maghreb, c'est l'Afrique du Nord, l'Afrique noire, c'est l'Afrique au sud du Sahara, ce sont des notions coloniales. C'était comme ça qu'on parlait à l'époque coloniale, parce qu'au sud du Sahara, c'était des Noirs. Mais si l'on se place sur d'un point de vue d'absence de racisme, la couleur noire n'a aucune espèce d'importance. On ne va pas caractériser un continent où tout le monde est noir. On ne va pas dire de la Suède qu'ils sont tous blonds aux yeux bleus. C'est la même chose. On ne caractérise pas une population par une caractéristique physique. Donc, effectivement, ce sont les anglo-saxons et les américains qui ont dit « c'est une notion raciste de dire Afrique noire ». C'est vrai. C'est vrai. Alors, il faut trouver autre chose. Alors là, on n'a vraiment pas trouvé quelque chose de très convaincant, parce que l'Afrique au sud du Sahara, ça exclut le Sahara. Or, Sahara, c'est y a des blancs, il y a des noirs, il y a de toutes les couleurs. Ça fait partie de l'Afrique dite subsaharienne. Alors, les Américains sont très maniaques aussi là-dessus, un petit peu trop, à mon avis, et disent, ils ont dit, mais subsaharienne, on ne sait pas bien, ça veut dire qu'on est des sous-sahariens. Donc, c'est Afrique au sud du Sahara. Donc quand on veut être vraiment international, scientifique, et ne choquer personne, on parle de l'Afrique au sud du Sahara. D'accord. Mais c'est vrai qu'on ne parle plus de l'Afrique noire, parce que là, c'est véritablement une expression raciste sans qu'on s'en rende compte. Et il y en a beaucoup comme ça. De même que les médias parlent toujours énormément d'ethnie. Or, le mot ethnie est un mot fabriqué à l'époque coloniale. Donc, a pris d'autres sens, effectivement, il faut analyser qu'est-ce que ça veut dire, mais il faut chaque fois déconstruire, et c'est ça les idées postcoloniales, déconstruire les concepts que nous utilisons, qui ont une histoire, connaître cette histoire pour savoir qu'est-ce que ça sous-tend. Et ça ne veut pas dire qu'il faut changer de terme, mais ça veut dire que chaque fois qu'on utilise un terme, il faut l'expliciter pour bien faire comprendre ce qu'on veut dire.
Catherine Kokrivitrovitch, quand Quand on vous écoute, il est presque impossible de ne pas se demander comment vous avez réagi à ce fameux discours de Nicolas Sarkozy en 2007 à Dakar, à l'université Cheikh Diop. Alors, en plus, on peut se demander, parce que Cheikh Diop, c'est un historien sénégalais que vous avez connu. L'université, qui ne portait pas encore son nom, vous y avez enseigné. Alors, pour rappel, le président français estimait que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, et il se trouve que c'est ce à quoi vous avez dédié votre vie, faire mentir cette idée.
Ah ben écoutez, quand nous avons entendu ou lu ce passage, nous autres spécialistes d'histoire africaine, nous avons été complètement esturbés. On dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Où se croit-il au 19e siècle? Enfin, quelle ignorance! Quelle ignorance! Et moi, quand j'ai écrit mon petit livre sur Petite histoire de l'Afrique, justement, je fais référence à ce discours. Je me suis dit, il a dit ça en 2007, mais c'est pas possible. Avec tous les travaux qu'il y a depuis le début des années 2000 sur la question, c'est pas possible qu'en 2007, il ait encore sorti un truc pareil. Il a fallu que je revérifie que c'était bien en 2007 qu'il avait dit, en me disant, mais. Il dit ça pour faire plaisir au public français qui pense ce genre de choses parce qu'il ne connaît pas, parce que l'histoire de l'Afrique n'est pas enseignée du tout, ni dans le primaire, ni dans le secondaire, et pas beaucoup dans le supérieur. Et par conséquent, l'ignorance est quasi totale en France sur l'histoire africaine, et il traduit cette ignorance en pensant que c'est un fait. En plus, il a fait ce discours à Dakar, aux professeurs titulaire, c'est-à-dire à la crème de l'université de Dakar. Il parle aux étudiants. Or, les Sénégalais ne voulaient pas que les étudiants soient là parce qu'ils craignaient leur réaction. Donc, les étudiants étaient dans une autre salle avec un écran pour voir ce que disaient. Mais là, il n'y avait que les professeurs titulaires, les gens importants de l'université qui ont tous été suffoqués. J'ai une collègue qui m'a dit, en fait, c'est la directrice de la bibliothèque universitaire, qui m'a dit, mais si j'avais été étudiant, je serais sorti. Mais nous ne pouvions pas sortir parce que c'est quelque chose qu'on ne se fait pas. Devant un chef d'État étranger, on ne va pas sortir. Mais la réaction était immédiate partout. Enfin, c'était une incompréhension suffoquée. Ils étaient tous suffoqués. Et nous aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, on a réagi avec deux ou trois ouvrages sur la question.
Oui, vous avez participé à un ouvrage avec l'historienne Adam Bakonaré, l'historienne
Madinali, malienne. Adam Bakonaré.
Un petit précis pour répondre à Sarkozy. Catherine Kokri-Vidrovitch, merci beaucoup. Aux auditeurs qui se demanderaient comment vous avez entretenu une mémoire si vive, je me permets de partager un petit secret que vous nous avez révélé en aparté. Il faut écrire quotidiennement, vous conseillez d'écrire notamment du courrier et le conserver pour pouvoir le relire. Je vous remercie d'avoir remonté le fil de votre biographie qui dit que l'histoire est un combat qui mérite d'être mené. Vous, en tout cas, vous y avez dédié votre vie.
Merci beaucoup.
Fin de cette rencontre de Jules Crétois avec Catherine Kokri-Vidrovitch. À voix nue, réalisation Laurent Polleré, prise de son Yves Lehors, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, déjà disponible sur franceculture.fr et l'appli Radio France.